France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué, celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, historien, historienne et anthropologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'un ou l'une d'entre eux, d'entre elles, vient nous en parler. Et aujourd'hui, notre invité, professeur de littérature française aux États-Unis, a choisi d'évoquer une œuvre de plus de 7000 pages, best-seller à sa publication au milieu du XVIIe siècle. Hélas, méconnu aujourd'hui, mais qui mérite d'être redécouvert d'urgence pour sa défense du consentement dans l'amour et le sexe.
Il en est des renommées littéraires comme des valeurs de bourse. Elles subissent des fluctuations. Les cours de certaines d'entre elles demeurent fermes. D'autres, après avoir été cotées très haut, s'effondrent. C'est ainsi que les titres de gloire de Madeleine de Scudéry illustrent à son époque sont, depuis longtemps, tombés aux pieds humides. Née en 1607, morte le 2 juin 1701, elle était fille d'un capitaine des ports du Havre. En proie à son frère aîné, Georges, leur père aurait été à son déclin ruiné par un ennemi. En 1650, Madeleine a recueilli dans sa petite maison de la rue de Beauce la succession de cet hôtel de Rambouillet dont les circonstances ont dispersé les familiers. S'y rencontrent des académiciens comme Conrart, Ménage, Chapelain, ainsi que des bourgeoises comme Madame Boquet, Madame Aragonais et cette peste de Madame Cornuel qui tient un bureau de rosserie. C'est elle qui a dit de Madeleine qu'elle suait l'encre par tous les pores. En effet, avec son visage long et maigre, sa peau noire et rude, elle était laide, l'infortunée Madeleine.
Bonjour Jennifer Tamas.
Bonjour Géraldine.
Bienvenue dans le souffle de la pensée et bienvenue sur cette archive de 1951, heure de culture française sur la chaîne nationale qui présentait donc Madeleine de Scudéry en ces termes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette archive? Bon. Elle vous a fait rire?
Bah, parce que c'est vraiment les
clichés. Mais c'est pas un rire franc, en fait.
Bah, on retrouve les clichés habituels sur Madeleine de Scudéry, à savoir qu'elle était laide, qu'elle avait le teint noir. Donc, vous savez qu'à l'époque, si vous avez votre teint hâlé par le soleil, c'est vraiment le contraire de la beauté d'aujourd'hui. Et on explique d'ailleurs, par son physique, le fait qu'elle soit restée toute sa vie fille, c'est-à-dire qu'elle a refusé le mariage toute sa vie.
Comment vous pourriez nous présenter, donc avec vos mots, Madeleine de Scudéry et ce faisant nous expliquer votre choix. Pourquoi avoir choisi Madeleine de Scudéry et surtout, on va y revenir, on va rentrer dans cette œuvre, Clélie, histoire romaine.
Pour moi, Madeleine de Scudéry, c'est une femme, une autrice et une œuvre que j'ai découvert après coup, puisque j'ai d'abord travaillé sur Racine. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a changé toute ma perception de la littérature du XVIIe siècle au moment où j'ai pensé ouvrir en fait les archives du consentement. Quand j'ai écrit Au nom des femmes et que je me suis intéressée à la façon dont les femmes ont pu dire non, ont su dire non et comment ces refus n'avaient pas été entendus ou invisibilisés, à ce moment-là, en lisant Madeleine de Scudéry, Clélie, mais pas seulement Clélie, les conversations morales, l'histoire des deux caméléons, enfin, il y a plein de choses intéressantes qui ont été écrites par Madeleine de Scudéry. J'ai eu un autre regard sur Molière, sur Racine, sur Perrault, sur toute cette littérature, sur Boileau, puisqu'en fait, Scudéry, moi, je l'avais rencontré par on dit, c'est-à-dire par réputation, par un regard de biais, par donc, Molière.
Par mauvaise réputation.
C'est ça. Par un écran, si vous voulez. Il y avait un écran qui était très fort, c'est-à-dire, ce qu'on avait étudié très rapidement, c'était quand même la carte de Tendre. Mais je comprenais pas pourquoi cette carte de Tendre, elle était tellement importante ou subversive ou qu'elle donnait des clés pour comprendre, par exemple, une scène de Phèdre. Et puis, surtout, par ce dénigrement, en fait, ce dénigrement d'une langue réputée frivole ou ou alambiqué, un dénigrement aussi de sentiments qu'on disait complètement fous, parce que en fait Madeleine de Scudéry est traitée de folle par Boileau, par même un petit peu en biais par Molière dans Les Précieuses Ridicules, puisque les deux jeunes filles qui adorent lire Scudéry sont deux folles qui méritent de se faire pendre. C'est la fin de la pièce des Précieuses Ridicules. Donc, si vous voulez, moi, je l'avais pas lu directement. Enfin, et quand je la lisais, j'avais ce prisme-là qui faisait que je n'arrivais pas à la lire autrement.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, vous nous en parlez. Aujourd'hui, Jennifer Tamas, je vous ai présenté, mais je le reprécise. Vous êtes professeure de littérature à la Rutgers University dans le New Jersey. Vous êtes l'autrice de « Peut-on être encore galant ? Peut-on être galant ? Et au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin », tous les deux parus aux éditions du Seuil. J'imagine que Madeleine Scudéry, maintenant, a une place primordiale dans ces textes-là, dans la manière dont vous les avez écrits. Et pourtant, au début, vous sembliez d'accord avec tous les préjugés et l'héritage de dénigrement qu'on avait de Madeleine Scudéry.
Alors, quand on s'attaque à la littérature du XVIIe siècle et qu'on est en France, c'est très impressionnant parce qu'il y a des géants de la littérature du XVIIe siècle, des très très grands professeurs, des très grands critiques, etc. Et bien sûr, ils sont pas tous d'accord entre eux. Et donc, on essaye de se faire un chemin. Et en plus, bon, moi d'abord, c'était Racine. Et c'est très dur d'avoir un discours sur Racine parce que Racine, il y a aussi tout un sédiment qui se fait sur la littérature racinienne, une interprétation aussi romantique de Racine. Je pense aux interprétations de Sarah Bernhardt, etc. Donc, il y a tous ces sédiments qui font que pour avoir un lien direct avec les textes, ça va prendre du temps. Et donc, une des façons dont moi j'ai construit mon lien à Racine, c'était d'abord d'écouter ce que les gens disaient. Donc souvent on disait Racine, poète galant. Donc poète galant, la galanterie, qu'est-ce que c'est? Aller lire Scudéry pour comprendre. Et donc je lisais des dialogues de Scudéry, je lisais, mais je voyais pas. En fait, moi, ce qui me touchait chez Racine, c'était pas la galanterie, c'était la violence. C'était j'aime, etc. C'était le fait que les personnages allaient au bout de leur passion, qu'ils ne mettaient rien à distance et qu'ils se détruisaient. C'est ça qui me touchait profondément chez Racine, c'était ce besoin de violence. Donc au début, je comprenais pas le lien entre Racine et Scudéry du tout. Je le voyais pas, je le comprenais pas. Et en fait, aussi, après, il y a eu Me Too, il y a eu aussi tout ce qui a été dit aussi sur Racine, c'est-à-dire que poète dont les femmes sont toujours, je cite, en galère, hyper misogyne, où les femmes finissent mal, alors que ça aussi, ça correspondait pas à moi ce que je lisais, puisque ce que je lisais chez Racine, c'est que tout le monde finit mal, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit grand seigneur, qu'on soit misérable, etc., on finit mal. Et donc, ce qui m'a aidée pour Racine, c'est d'aller lire tous les modèles raciniens, c'est-à-dire Racine va puiser chez Sénèque, chez Euripide, chez Ovide, chez Tacite, chez Suétone, donc c'était d'aller lire les sources et voir ce que lui avait transformé. Et ensuite, en faisant ça, du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs voies raciniennes qui donnaient une part aux femmes qui était très intéressante, une part d'agentivité, qui changeait l'histoire romaine pour donner du pouvoir à certaines femmes. Et là, quand j'ai commencé ce que j'appelle ouvrir les archives du consentement, je me suis dit, mais en fait, je peux pas ouvrir les archives du consentement et lire que les auteurs hommes, etc. J'ai commencé à lire Scudéry, Madame de Villedieu, Madame d'Aulnoy. Et là, j'ai découvert qu'en fait, ce qu'on présentait comme des petits dialogues frivoles, sans intérêt, une petite casuistique amoureuse, en fait, ça dépliait des problèmes fondamentaux de l'existence des femmes, à savoir le mariage. Pourquoi le mariage, en fait, ça décide de l'existence des femmes? C'est vraiment un problème existentiel. Comment on va choisir celui avec qui on va passer sa vie? Qu'est-ce qui se passe le soir de la nuit de noces? C'est quoi ce destin féminin qui attend le corps des femmes? Et donc là, quand on lit Scudéry, quand on regarde la carte de Tendre, on s'aperçoit déjà qu'il n'y a pas amour, il n'y a pas de passion. Et là, on se dit, mais de quoi elle nous parle finalement? C'est quoi tous ces itinéraires? Est-ce que c'est quoi tous ces sentiments? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'amour, en fait? Et qu'est-ce qu'il y a derrière la passion? Et est-ce que la passion, c'est pas une espèce de géant soufflet? Et hop, on ouvre, on met la petite cuillère sur le soufflet, il n'y a rien dedans. Et donc c'est ça, ça pose la question du coup de foudre. Ça pose la question de comment on se choisit. Ça pose la question de... qu'est-ce qui se passe quand la personne qu'on aime meurt? Combien de temps on doit faire le deuil de cette personne? Et cette casuistique amoureuse, en fait, elle est fondamentale pour penser ce que c'est qu'être une jeune femme. Il y a aussi toute la réflexion de Plotine. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai 13 ans? Pourquoi le regard que les hommes portent sur moi se change complètement?
Vous parlez d'archives du consentement, Jennifer Tamas. Est-ce que le mot est prononcé? Est-ce qu'il apparaît dans la carte de Tendre? Pourquoi, en fait, ce concept-là, il est crucial dans ce texte?
Alors, le mot, il est défini par Furtière au XVIIe siècle. Donc, moi, je suis venue au consentement vraiment aussi par le livre de Vanessa Springora, qui a été vraiment un coup de foudre, enfin, et aussi une bombe. C'est-à-dire que elle
ce qui veut dire que vous avez quand même eu cette lecture-là, je le précise, presque ce choc avec Madeleine de Scudéry, non pas de vous-même, mais aussi parce qu'il y avait un contexte d'autres lectures, oui. Me Too, Vanessa Springora.
Oui, c'est ça. En fait, je suis vraiment venue à Scudéry par les marges là, autour de la carte, celles qu'on ne voit pas parler. Et c'est difficile aussi, hein, Scudéry, parce que souvent on dit c'est des petites conversations sans intérêt, etc. Et en fait, c'est presque de la philosophie. Et c'est pour ça que je disais, vous avez de la chance, Géraldine, vous avez tout ce background philosophique que j'ai pas. Vous avez
on dirait un banquet de Platon, fois 7300 pages.
Oui. C'est ça. Et vous retrouvez tout de suite dans les arguments, etc. Et moi, je trouve que c'était difficile. Donc, je pense qu'aussi, il y avait de l'appréhension et puis, un manque de connaissances par rapport à... Parce qu'en fait, Scudéry reprend plus tard, il y a plein de choses qu'elle reprend et qu'elle retravaille. Mais pour revenir à cette histoire de consentement, en fait, ce que montre très bien Vanessa Springora, c'est que consentir, c'est pas dire oui ou non, qu'il y a tous ces phénomènes d'emprise, qu'il y a ces façons de ne pas dire non, et que ne pas dire non, ce n'est pas forcément consentir, donc il y a cette espèce de zone grise, et ce que pose aussi comme question le texte de Vanessa Springora, c'est à quel âge on peut consentir, un consentement éclairé, quand est-ce qu'on peut le formuler? Et en fait, quand vous regardez le dictionnaire de Furtière, qui est le dictionnaire du XVIIe siècle, Furtière va travailler à l'Académie française, mais il fait son propre dictionnaire, et c'est intéressant de comparer le dictionnaire de l'Académie française et celui de Furtière. Furtière dit bien qu'il y a deux définitions du consentement, une définition active où on donne son assentiment, et on dit, voilà, et une définition passive où on ne dit pas non, on ne s'oppose pas. Et donc, ce consentement, si vous voulez, entre dire oui et ne pas dire non, si vous voulez, c'est quelque chose qui se trouve fondamentalement au sein des intrigues au XVIIe siècle, que ce soit dans les romans, les pièces de théâtre, même les contes de fées, parce que vous avez d'une part le consentement des époux qui est favorisé par l'Église, qui prône justement le mariage d'amour, et vous avez au contraire les familles qui ne veulent pas se fier au consentement du tout de leurs enfants, puisque ils veulent l'intérêt des familles, c'est-à-dire des mariages qui vont favoriser justement l'échange de marchandises, l'échange de territoire et leur propre intérêt à eux. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce que justement les jeunes gens consentent. Donc si vous voulez, vous avez vraiment cette tension qui va traverser le siècle, et vous la voyez par exemple chez Molière, toujours le père veut que tel enfant épouse tel autre enfant de telle famille, et puis les servantes et les enfants qui dans le dos vont miner cette autorité du père pour favoriser d'autres unions. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a un changement de paradigme sur le mariage. Est-ce qu'on peut vouloir un mariage d'amour ou pas? À quoi va servir le mariage d'amour? Et si on va du côté du mariage d'amour, est-ce qu'on va pas être sûr qu'une fois qu'on épouse la personne qu'on aime, on va pas perdre l'amour? Donc il y a toute cette casuistique, mais qui est existentielle en fait.
Et on va entendre tout de suite justement un extrait de cette casuistique. C'est un échange entre Clélie, donc qui donne son nom à ce roman de Madeleine de Scudéry, et Horace, un prétendant, mais un prétendant déçu.
Pour moi, je n'ai jamais pu comprendre qu'il fût possible d'aimer ce qu'on n'a pas eu loisir de connaître. Je conçois aisément qu'une grande beauté plaide dès le premier instant qu'on la voit, mais je ne conçois point du tout qu'on la puisse aimer en un moment. Et je suis fortement persuadée qu'on ne peut tout au plus, la première fois qu'on voit une personne, quelque aimable qu'elle puisse être, sentir autre chose dans son cœur que quelques dispositions à l'aimer.
Comme vous n'avez jamais eu d'amour, il n'est pas fort étrange que vous ne sachiez point comment cette passion s'empare du cœur de ceux qu'elle possède. Mais il est pourtant constamment vrai qu'on peut avoir de l'amour dès le premier jour qu'on voit une personne qu'on est capable d'aimer. J'avoue toutefois que si on ne la voyait que ce jour-là, que cet amour ne serait peut-être pas assez forte pour donner une longue inquiétude, et qu'elle pourrait même finir aussi promptement qu'elle aurait commencé. Car enfin, comme une première étincelle ne peut faire un grand embrasement si on ne prend soin de ne la laisser pas éteindre, de même l'amour a besoin qu'on l'entretienne pour la croître. Mais après tout, comme cette étincelle ne laisse pas d'être feu, quoiqu'elle n'ait encore ni grande lumière ni grande chaleur, de même, une amour d'un moment ne laisse pas d'être amour, quoiqu'elle ne vienne que de naître.
Voilà donc un extrait de Clélie, histoire romaine. Je précise que ce grand roman de Madeleine de Scudéry est un roman quand même en 10 volumes qu'elle a publié entre 1654 et 1660. Il y a 7300 pages. Elle a publié sous le nom de son frère, Georges de Scudéry. Et l'intrigue, si on doit la résumer, Jennifer Tamas, c'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment, Clélie et Aronce, qui doivent se marier, mais dont le mariage est retardé sur 7300 pages par des tremblements de terre. Ça commence par un tremblement de terre, par la tyrannie de Tarquin, par la chute de cette tyrannie et la proclamation de la République. Et enfin, va se clôturer donc avec leur mariage. Et durant cette différence, enfin ce mariage différé, on lit plein de conversations sur l'amour, dont celle-ci sur qu'est-ce qui se passe au premier coup d'œil.
Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que finalement, ce que Clélie raconte ici, c'est que le coup de foudre, c'est du vent. Ça n'existe pas. Et il faut faire une distinction entre plaire et aimer. Et prendre avec gravité ce que ça veut dire que l'amour. Et on voit bien que pour Horace, c'est quelque chose qui est inacceptable parce que il y a ce topos du coup de foudre et de l'amour qui renverse tout. Enfin, ça, on le voit dans la littérature depuis très 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 longtemps.
Mais depuis quand d'ailleurs?
En tout cas, c'est repris beaucoup au XVIe siècle avec justement, par exemple, Louise Labbé, Pétrarque, le coup de foudre à l'or, c'est-à-dire on voit l'or pour la première fois. Donc on va retravailler cette histoire du coup de foudre. Et puis justement, ça continue à être retravaillé. Beaucoup plus tard, Racine avec Phèdre, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le coup de foudre? Et c'est marrant parce que j'ai fait un cours sur le coup de foudre avec des étudiants américains, je vous disais. Et en fait, c'était très intéressant puisque souvent ils sont assez fleurs bleues. Et là, ils m'ont dit, mais madame, ça n'existe pas du tout le coup de foudre. On sait très bien maintenant que c'est des phéromones, qu'il y a tout un aspect scientifique qui prouve que c'est juste une attirance qui n'a pas de prise, en fait. Et c'est ça, en fait, la discussion continue. Donc là, on a eu un tout petit extrait. Mais ce qui vient ensuite, c'est intéressant parce que ça fait référence à une pratique de l'époque qui est la pratique des portraits. Et par exemple, au cinéma, Portrait d'une jeune fille en feu, on a cette pratique du portrait qui perdure au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on arrange aussi les mariages en faisant circuler des portraits. C'est-à-dire Louis XIV, avant de se marier, il avait vu le portrait de sa future épouse, etc. Et donc,
se décidait sur un portrait, en fait.
C'est-à-dire que les mariages étaient arrangés par les familles, puis on faisait circuler les portraits, quand même.
Donc, comme sur Tinder, par exemple.
C'est intéressant. Mais justement, donc, Clélie va dire, mais c'est complètement stupide de tomber amoureux d'une image. Donc, souvent aussi, j'utilise un peu ce passage pour leur montrer, qu'est-ce qui fait que vous cliquez ou que vous ne cliquiez pas, sur des portraits. Donc, il y a toute une réflexion sur, finalement, les apparences et sur la profondeur des sentiments, sur ce qui fait le lien, finalement. Et donc, vous voyez qu'en fait, Horace, sa défense du coup de foudre, c'est aussi une accusation d'insensibilité. Parce que c'est il est déçu, etc. Donc, il y a toujours aussi une part de rhétorique dans la façon de converser avec un but persuasif. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas au coup de foudre, c'est parce que vous êtes une insensible et peut-être que vous n'êtes pas bien faite, etc. Donc, c'est cette accusation de frigidité, qu'on va retrouver aussi dans La Princesse de Clèves, c'est quelque chose qui est intéressant à déplier.
Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on n'a pas seulement un avis très manichéen entre d'un côté Clélie qui serait anti-coup de foudre et Horace qui serait pro-coup de foudre, parce que Clélie dit quelque chose dans le texte qu'on a entendu de beaucoup plus subtil que ça. Elle dit « Je suis fortement persuadée qu'on ne peut tout au plus, la première fois qu'on voit une personne, sentir autre chose dans son cœur que quelques dispositions à l'aimer. » Ce qui veut dire qu'elle n'exclut pas le coup de foudre, elle exclut le coup de foudre, mais elle n'exclut pas la possibilité,
oui, c'est vrai,
d'aimer. Donc il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre, c'est-à-dire quand même que la rencontre avec quelqu'un au premier regard peut déterminer, peut ouvrir, en fait, peut être une condition de possibilité de l'amour.
Ouais, ça peut susciter quelque chose qui serait de l'ordre, et ben elle le représente ensuite sur sa carte, de l'inclination. Et l'inclination, c'est cette propension qu'on a à suivre un élan, mais tout en ayant conscience qu'en fait, derrière cet élan, il y a peut-être aussi du vide, enfin, et quelque chose de dangereux. Parce que si vous regardez sur la carte de Tendre, l'inclination va se jette directement dans la mer dangereuse. C'est-à-dire, en fait, c'est ça qui est très fort dans Clélie, c'est que c'est des discussions entre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, mais qui sont prêts à s'écouter, qui ne s'énervent jamais de ne pas être d'accord, et qui sont prêts toujours à nuancer leur désaccord. Et parfois même à changer d'avis. Donc, et c'est ça, et donc c'est pour ça que c'est d'une extrême subtilité, c'est pour ça qu'on n'a jamais fini de relire, et qu'on n'a jamais fini de comprendre, et qu'on n'a jamais fini d'interpréter aussi cette carte de Tendre entre les spécialistes qui s'y intéressent, et qui parfois sont en désaccord aussi. Qu'est-ce que ça signifie ? Et parce qu'on voit très bien qu'en fait, il y a des différences entre les êtres, des différences entre les sexes aussi. Si vous regardez la carte de Tendre, ça commence par...
Alors moi, je dis pour les auditeurs et auditrices, dans l'édition que nous avons, donc c'est l'édition raccourcie de Clélie, Histoire romaine, c'est l'édition de Delphine Denis en folio, et au début, il y a donc la carte de Tendre qui se déplie. Est-ce que vous pourriez nous la décrire ?
Oui, alors l'édition de Delphine Denis, elle est juste géniale, parce que déjà, il y a tout un appareil critique, une préface qui nous explique... comment appréhender ce texte et aussi qui permet de dégonfler un peu l'appréhension qu'on en a. Et elle nous met justement en copie à l'ouverture du livre cette carte de Tendre. Donc, c'est deux hommes et deux femmes qui se consultent, ils sont rassemblés. Et donc, on a l'impression que les hommes sont pourvus de bâtons de randonnée et qui sont conseillés par les femmes. Et ça commence sur un rivage de nouvelle amitié. Et donc, il contemple cette carte qui s'offre comme plusieurs itinéraires possibles. Mais si vous regardez, il n'y a aucune prescription. Donc, c'est pas, il y a pas. Donc, la carte va être beaucoup commentée hein, dans Clélie, mais ces commentaires ne seront pas non plus un mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de liberté à circuler sur ce territoire. Et vous voyez même des ponts, en fait. Vous avez des villages importants. Hein. Et donc, on peut circuler d'une rive à l'autre. Et ça commence quand même, un des premiers villages, ça commence par l'inégalité, hein, si on va à droite. L'inégalité qui, si on continue sur cette voie, va mener au lac d'indifférence. Alors que si on se situe plutôt du côté des billets galants, billets doux, etc., on va cheminer vers le respect. Donc ça commence par cette notion d'inégalité entre hommes-femmes, comment on peut cheminer vers d'autres sentiments, sachant qu'il y a trois grands fleuves, hein, donc l'inclination, dont on parlait tout à l'heure, qui se jette directement dans la mer dangereuse. Donc c'est un itinéraire possible. Hein. Mais et donc vous avez ce village Tendre sur inclination, trois grands villages. Hein. Les deux autres, c'est Tendre sur reconnaissance et Tendre sur estime.
Et donc c'est quoi la différence entre estime et reconnaissance ? Parce que l'inclination, on voit bien qu'il y a, vous l'avez très bien dit, Jennifer Thomas, il n'y a pas d'amour sur cette carte de Tendre. Madeleine de Scudéry évite le terme, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et elle différencie inclination, estime, reconnaissance. Inclination, on dit que c'est le plus proche de la, voilà, de l'amour. Mais l'estime et la reconnaissance, là, on est juste dans le cadre de l'amitié pour le coup.
Alors, c'est une carte sur l'amitié, parce que très loin, vous avez
ça, c'est
la
bien de le rappeler.
Oui, voilà.
C'est l'amitié.
Mais en fait, il n'y a pas une amitié, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'il y a plus, il y a toute une typologie des amitiés parce que vous avez plusieurs amis et la façon dont vous interagissez ou la personne que vous devenez au contact d'un ami va être différente. Chaque personne va susciter en vous une couleur, une façon d'être qui est différente. Et donc il y a cette espèce d'alchimie qui est pensée en tout cas par Madeleine de Scudéry. Et en fait, cette carte de tante vient d'une vraie conversation qu'elle a eue dans son salon au moment où elle rencontre Pélisson en 53, ce qui est un nouvel arrivant en fait. Et d'autres amis qui faisaient des progrès dans son cœur, Conrad, etc., vont avoir une touche de jalousie. Et puis, et on va se poser la question, est-ce que ça va bouleverser l'équilibre du groupe ? En fait, parce qu'ils ont des espèces de dîners, de regroupements. Aujourd'hui, on dirait des dîners en ville. Ils ont voilà des cercles d'amitié. Et est-ce que l'arrivée d'un nouveau venu va bouleverser l'équilibre, va changer, etc. Et est-ce qu'on va perdre ? Et donc, elle a cette vraie conversation où elle dit, mais en fait, ça se pose pas comme ça la question. C'est pas un cœur qui remplace un cœur. C'est pas mathématique. C'est-à-dire que la façon dont on construit des relations avec les gens, elle s'ajoute, elle se mélange, elle se modifie. Et donc, en fait, suite à cette vraie conversation, elle va demander à Pélisson de tenir registre, c'est-à-dire Pélisson va être chargé de décrire ce qui se passe, les conversations qui se passent dans les salons, ça va donner les chroniques du samedi. Et ensuite, elle va reprendre cette conversation dans Clélie avec la fiction d'une conversation qu'elle a avec les amis dans Clélie. Donc il y a sans arrêt cette espèce de mise en abîme qui va lui permettre, et elle dit bien, mais c'est une petite fantaisie, il ne faut pas prendre ça au sérieux, il ne faut pas non plus que ça circule trop parce qu'à ce moment-là, on va se moquer de moi, on va pas comprendre ce que je veux dire. Et en fait, elle essaye.
Vous parlez de Madeleine de Scudéry, oui. Et là, pas de Clélie. Hein, bah, parce deux. Que Clélie a un peu ce discours-là aussi.
Bah, les deux, en fait. Madeleine de Scudéry.
Pourquoi ce serait ridicule, justement, de défendre une vision amoureuse ou de l'amour qui soit dans un flou avec l'amitié et qui ne soit pas fondée, effectivement, sur une vision qu'on a de l'amour très romantique, qui est vraiment fondée sur la performance, sur l'épreuve, sur, pour l'époque de Madeleine de Scudéry, sur les duels aussi.
Mais parce qu'en fait, c'est assez subversif ce qu'elle propose. Parce que déjà, enfin, moi, ce que j'essaye de montrer, parce que quand je travaillais sur le théâtre, je lisais les traités de bienséance, traités théâtraux, etc. Et les femmes, on leur prescrit quand même le silence. C'est-à-dire que...
Alors que là, clairement, Clélie voilà. A la parole, peut dire qu'elle c'est ne ça. Croit pas au coup de foudre.
Déjà, on leur prescrit le silence. Ensuite, on dit qu'elles n'ont pas le droit de parler de leurs sentiments. Donc souvent, au théâtre, c'est les hommes qui déclarent leur amour, etc. Parce qu'une femme qui parle d'amour, qui parle de sentiments, elle met en péril sa réputation. Donc, et ce qui est subversif donc avec Scudéry, mais par rapport aussi d'où on vient, c'est-à-dire les entretiens privés sont bannis, etc. Et en fait, elle imagine une sociabilité où les femmes ont la parole, où elles parlent de sentiments, où elles affirment ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et donc c'est subversif aussi parce que comme elle est contre le mariage, même si ses personnages peuvent se marier, c'est-à-dire c'est ça qui est fort avec Scudéry, c'est elle peut penser des choses, avoir des thèses très fortes comme, je cite, le mariage est un esclavage, ne pas se marier, et pourtant donner la place à des personnages qui vont se marier, etc. Elle est pas du tout dogmatique, en fait. Et sa carte n'est pas dogmatique non plus. Et donc, pourquoi c'est subversif? Parce que, justement, un des arguments de l'Église à l'époque, c'est mariez-vous, parce que c'est comme ça que vous allez développer l'amitié conjugale. Et ce que montre Scudéry, c'est qu'il peut y avoir une amitié en dehors de la conjugalité. Et donc c'est pour ça que cette notion d'amitié calidéoscopique, il y a d'ailleurs dans Clélie tout un passage, elle dit voilà, j'ai différents types d'amis, j'ai des amis d'habitude, j'ai des amis de circonstance, j'ai des amis... Cette volonté de cartographier, c'est aussi une façon...
Et non pas de hiérarchiser
non,
d'ailleurs.
Non, pas forcément de hiérarchiser, quoique en fait, on voit très bien que la tendresse est... très en haut, enfin, c'est-à-dire qu'un ami tendre, elle le dit, n'a rien à voir avec un ami tout court, et que la tendresse, c'est quelque chose dans la hiérarchie du cœur qui est importante, c'est l'élection amicale. Donc, pourquoi on va s'en manquer? Bah, c'est exactement ce que va dire Molière avec les précieuses ridicules, c'est que tout ça, finalement, c'est assez ridicule. Et d'ailleurs, la carte de tendre va être si vous voulez copier, moquer la carte de la braquerie, on va vraiment, elle va circuler pour de vrai.
On va justement écouter un extrait des précieuses ridicules et d'une mésinterprétation de la carte de tendre sous le titre de la carte du tendre. Okay.
Je te dis que le mariage est chose sainte et sacrée, et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là.
Mon Dieu! Que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et Caronce de plein pied fut marié à Clélie.
Que me vient conter celle-ci?
Mon père, voilà ma cousine, qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments poussés, le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes.
Quel diable de jargon entends-je ici? Voici bien du hostile.
En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis verres sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela et qu'ils n'ont point cette air qui donne d'abord bonne opinion des gens?
Le long du fleuve qui remonte, par les rives de la rencontre, aux sources d'émerveillement, on voit dans le jour qui se lève s'ouvrir tout un pays de rêves, le tendre pays des amants. On part avec le cœur qui tremble du bonheur de partir ensemble, sans savoir ce qui nous attend. Ainsi commence le voyage, semé d'écueils et de mirages, de l'amour et de ses tourments. Quelques torrents de médisance.
Voilà, Georges Moustaki, La carte du tendre, chanson qui date de 1970. C'est vous, Jennifer Tamas, qui nous l'avez indiqué. Et on a entendu juste avant un extrait des Précieuses ridicules de Molière. On a parlé de la carte de tendre. Pourquoi cette, la carte du tendre? Comment est-ce devenu, dans le langage courant, parfois la carte du tendre?
Ça, je ne sais pas l'usage qui en est fait, mais c'est vrai que c'est une faute qu'on fait tout le temps. Mmh. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, enfin, juste avec ces deux extraits, la pensée scudérienne habite la culture. Mmh.
Mais pour être dénigrée, parce que j'allais vous demander, Jennifer Tamas, après avoir décrit cette carte de tendre, qu'est-ce que la tendresse, dans la mesure où Georges Moustaki en fait quelque chose de
très sentimental.
Voilà, mais... et à l'inverse, Molière, quelque chose de ridicule.
Alors, moi, j'aime beaucoup la chanson de Georges Moustaki.
C'est vrai qu'elle est jolie.
Je la trouve très belle, mais c'est une interprétation très sentimentale. Et en même temps, ça dit bien le besoin, finalement, de mettre des mots sur les sentiments qui parfois échappent aux mots. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, moi, quand j'ai travaillé aussi sur Racine, ce qui m'intéressait dans Racine, c'était le silence. C'était dire ou ne pas dire l'amour. J'ai fait toute une thèse sur la déclaration d'amour chez Racine. Et c'est aussi le fait de ne pas dire. Et ça, on le trouve dans la pensée scudérienne, enfin, ou chez d'autres autrices, que à partir du moment, est-ce qu'il faut dire ou non je t'aime? Parce que si on le dit, alors le sentiment s'effrite, s'écorne et ça marque l'inauthentique. C'est quelque chose d'inauthentique, en fait. Donc,
puis est-ce que je t'aime, c'est assez fort.
C'est ça, ça dit pas. En fait, c'est ça, c'est comment arriver à dire ce qu'on ressent. Et donc, rappelez-vous, Hippolyte, je vous parle une langue étrangère, etc. Parce que déjà, quand c'est la première fois qu'on dit, on ne sait pas si on dit bien. Et donc, Scudéry va mettre aussi ça en scène avec ce prince de Numidie qui dit « Mais moi, pour le coup, je parle vraiment une langue étrangère parce que je ne suis pas romain, ce n'est pas ma langue. Enfin, et je ne sais pas comment le dire et donc je vais être maladroit. » Et elle lui répond « Mais de toute manière, si vous allez sur ce terrain-là, moi, je ne vous écouterai pas. » Et c'est ça, c'est le refus de nommer l'amour. Vous le voyez aussi dans la carte de temps. Donc,
mais le paradoxe, c'est qu'ils ne font parler que, ils ne parlent que de ça.
Ben oui, mais parce que, mais c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'en fait, une fois qu'on a dit amour ou je t'aime, on n'a rien dit. On a tout dit, on n'a rien dit. Et donc, elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment des situations concrètes.
D'où la casuistique, d'ailleurs.
D'où la casuistique.
La confrontation de
qu'est-ce
principes à des cas particuliers.
Donc, par exemple, elle dit, elle montre qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on tombe amoureux d'une femme dont on connaît le précédent amant et on n'estime pas du tout le précédent amant. Et en fait, est-ce que finalement la réputation d'une femme n'est pas ternie par l'homme qu'elle a aimé avant et qui n'est pas digne d'être aimé? Voilà, par exemple. Et donc cette question de la réputation, cette question... En fait, c'est ça, c'est derrière le sentiment amoureux et l'inclination qu'on ressent, cette espèce, enfin, les papillons dans le ventre, je ne sais pas comment on peut le dire, ou dire cet élan passionnel, hein, qui est, on n'a aucune, on met rien à distance. Qu'est-ce qu'on peut maîtriser et qu'est-ce qu'on peut décortiquer? Enfin, c'est une sorte de boîte à outils. Enfin,
et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, j'ajouterais.
Oui.
Parce que est-ce qu'on peut dire je t'aime, mais comment on en parle? Là, c'est vrai qu'avec Molière, on a l'impression que de dire de parler d'amour avant le mariage, ça devient quelque chose de l'ordre de la préciosité et donc du ridicule pour Molière. Avec Georges Moustakis, c'est tout de suite sentimental, à l'eau de rose. Et c'est vrai que quand on parle d'amour, on a l'impression que les mots nous manquent parce que quand on peut débriefer avec des amis d'une rencontre amoureuse, on va dire des clichés, en fait.
Oui.
On a peu, en fait, de moyens. On ne fait que parler d'amour, mais on en parle toujours de la même manière. C'est aussi ce que nous dit Scudéry.
Alors, avec cette différence, en fait, je pense que Scudéry, elle prend le temps. Ces conversations prennent du temps. Vous l'avez dit, ça prend des milliers de pages. Il faut prendre le temps de décortiquer les sentiments à une époque où les mariages étaient arrangés, où les jeunes gens ne se connaissaient pas. Et c'est ce que dit les précieuses ridicules, en fait. Pourquoi elles sont vilipendées par leur père, et le père de famille? C'est parce qu'en fait, il arrange un mariage. Ça coûte cher d'avoir ces femmes, ces jeunes filles à la maison. Il faut les marier. Et en fait, elles disent, mais c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, le mariage arrangé, etc., avec des parfaits inconnus, l'horreur de se retrouver toute nue dans un lit avec un homme, ça c'est dans Molière. Il y a une espèce de violence dans la façon de procéder pour les mariages, comme il y a une violence dans la passion amoureuse, qui fait qu'en fait les femmes sont des proies, en tout cas telles que c'est médiatisé par les contrats de mariage et par cette expérience de la nuit de noces dont on retrouve trace dans les mémoires de femmes, dans les contes de fées qui parlent des violences.
Donc part aussi médiatisé aussi par les représentations qu'on se fait de l'amour, parce que le modèle de l'amour, ou en tout cas de l'amitié que dessine Madeleine de Scudéry, il est fondé sur la tendresse. Or, on valorise peu la tendresse. Qu'est-ce que c'est la tendresse?
C'est elle qui invente ça, en fait.
Qu'est-ce que c'est la tendresse pour Madeleine de Scudéry?
C'est cette façon d'être tellement poreux à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que la tendresse se construit dans la conversation.
Et pas dans les corps?
Et bien sûr, alors, on parle pas beaucoup de corps, quoi qu'on en parle. Par exemple, elle revisite le mythe de Danaé, violée par la pluie d'or de Zeus, en fait. C'est un viol. Et elle le dénonce. Elle le dit, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû utiliser cet or pour soudoyer les gardiens de la jeune Danaé qui était prisonnière dans la tour par son père. Mais on rentre pas comme ça dans le corps des femmes. Donc, en fait, il y a beaucoup de, si vous voulez, de précautions dans la façon de parler des corps, mais mine de rien, on en parle. Et la tendresse, en fait, elle dit quand même que c'est une disposition naturelle qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, soit on est tendre, soit on l'est pas, on peut rien faire si on ne l'est pas. D'accord? C'est une disposition naturelle, mais quand même, on peut aussi lire Clélie comme une éducation, comme une école de la tendresse. C'est-à-dire, elle va essayer de, même quand les gens ne la comprennent pas, ce qui est le cas d'Horace par exemple, mais d'autres, qui sont plutôt dans ces sentiments violents, etc., elle va essayer justement, par le fait même d'en parler, de les mettre à distance, de les décortiquer, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, de faire prendre conscience à l'autre qu'en fait, s'ils sont amoureux d'elle, mais il va falloir parler autrement et surtout pas parler d'amour et cultiver autre chose.
Imaginez-vous que, comme mes chagrins m'occupent étrangement l'esprit, je ne dors jamais que par lassitude. De sorte qu'il s'en fallait peu que la première pointe du jour ne parût, que je n'avais pu encore fermer les yeux. En cet état, je ne sais si mon accablement m'a forcé de dormir ou si j'étais effectivement éveillée, mais je sais bien qu'il m'a semblé voir une assez grande lumière, qui avait pourtant quelque chose de sombre. Un moment après, Lucrèce m'a apparu, plus belle que je ne la vis jamais. Ses cheveux étaient négligés, elle était couverte d'un grand manteau blanc, et elle tenait un poignard sanglant à la main. En cet état, j'ai cru entendre sa voix, qui avait quelque chose d'effrayant. « Fuyez, Clélie, fuyez !» m'a-t-elle dit. « Mais fuyez promptement, car je vous avertis que le tyran qui me fit avoir recours à ce poignard en veut à votre gloire, comme il en voulait à la mienne. Ayez donc recours à la fuite, et ne vous mettez pas dans la nécessité d'être obligé d'avoir recours à la mort. » Après cela, cette lumière s'est éteinte. Lucrèce a disparu, et le son de sa voix a de telle sorte frappé mon esprit que de tout le jour je n'ai fait autre chose que penser à ce que j'ai cru avoir vu et entendu, sans avoir même la force de vous le dire. Joint que ne vous ayant pas vu seul, je n'ai pas voulu parler d'une chose qui ne semble être propre qu'à me faire soupçonner d'avoir l'esprit un peu faible.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de Clélie, histoire romaine lue par Lucille Como, cette vision qu'a Clélie en pleine nuit de Lucrèce, qui a été violée par Sextus et qui s'est poignardée, ne supportant pas l'outrage qu'elle avait subi. Vous avez parlé, Jennifer Tamas, du mythe de Danaé, du viol qu'elle a subi, cette pluie d'or, par Zeus. Là aussi, il est question de corps, et on se rend compte aussi que la vision de l'amour, de l'amitié que déploie Madeleine de Scudéry n'exclut pas, malgré cette égalité des sexes dans la conversation, l'inégalité, les violences corporelles.
Mais en fait, on ne voit pas que Clélie, quand on parle de Clélie et qu'on dit que ce sont des conversations frivoles, précieuses, etc., on ne voit pas que elle s'inscrit dans la continuité, la filiation de Lucrèce, et que c'est le refus d'être violée, en fait. Clélie, c'est la femme héroïque, donc étymologiquement, c'est la glorieuse, qui va, enfreindre le traité de Rome, parce que c'est une otage, Clélie, c'est une prisonnière, c'est l'histoire d'une prisonnière et d'une otage qui, parce qu'elle refuse le viol, va s'enfuir et menacer la paix de Rome, en fait. Et donc, par une ruse, c'est-à-dire, donc, ce qu'on nous raconte ici, c'est le rêve de Lucrèce. Elle est habitée par Lucrèce. Donc, il y a cette communion avec les morts. Elle est habitée par Lucrèce, qui lui dit, écoute, tu vas subir le même sort que moi, fuis. Et c'est une question qui va être posée. Est-ce qu'il faut mieux favoriser l'honneur de son pays ou l'honneur des femmes de son pays? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est la paix qu'a négocié un pays? Ou est-ce que c'est l'honneur des femmes qui habitent ce pays? C'est une vraie question, même politique.
On pourrait même d'ailleurs la prolonger, Jennifer Tamas. Est-ce qu'il vaut mieux préserver un état donné, une forme, les convenances, les apparences? C'est-à-dire que si tout le monde accepte des choses, je fais référence à des enjeux actuels, bah oui, très contemporains. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux se taire pour ne pas faire de vagues ou au contraire parler?
Oui. Voilà. Moi, je ne veux pas faire le rapprochement avec l'histoire actuelle, mais bien sûr que ça m'habite. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle est une otage, elle va prendre un bain, dire qu'elle ne veut pas être vue, toute nue par ses gardiens. Elle va prendre des femmes avec elle, elle va prendre un cheval, elle va traverser. Elle va traverser la mer et rentrer chez elle, chez les Romains, qui vont la relivrer, elle, à Porsena. Donc, en fait, elle s'affranchit elle-même, elle menace de rompre la paix, mais elle est ramenée comme otage pour préserver la paix. Et finalement, elle étonne tellement par sa gloire qu'elle va être graciée et qu'elle a le droit même de choisir d'autres otages pour rentrer chez elle. Et c'est là qu'elle va choisir des femmes et des enfants qui sont les plus vulnérables.
Est-ce qu'on peut dire que Clélie, histoire romaine, Jennifer Tamas, c'est un livre sur des héroïnes?
C'est ça. Et c'est ce que ne va pas du tout supporter Boileau, en fait. C'est-à-dire
donc un contemporain de Madeleine de Scudéry.
Voilà. Et si vous voulez, Boileau va reprocher dans les dialogues de héros de roman que, suite à Lastrée d'abord, mais Scudéry c'est pire, en fait, les romans sont devenus impossibles à lire, que tous les héros sont doucereux, tendres, insupportables, et c'est la faute de Scudéry, parce que encore Lastrée, c'était des bergers et des bergères, mais Scudéry, elle a osé transfigurer ces rois romains en espèce de héros tendre et amoureux. Donc il y a aussi une malhonnêteté de Boileau, parce que c'est ce que fait Racine aussi. Hein. Mmh. Et Racine,
mais Racine est un homme.
Et puis Racine est aussi amie avec Boileau, pendant un temps du moins, et ils sont historiographes du roi. Et d'ailleurs, c'est ce que Rousseau dit. Ce que Rousseau dit, ce qu'il ne supporte pas chez Racine, c'est les héros tendres. Mais ce que fait Scudéry, c'est pas seulement qu'elle va donner de la tendresse aux héros, c'est qu'elle va faire des héroïnes. Donc, très très longtemps avant, il y a les harangues héroïques. Donc, c'est des femmes. C'est vraiment un contre-modèle à Ovide. Donc, Ovide, dans les héroïdes, c'est des femmes qui pleurent, qui sont éplorées parce qu'elles ont été abandonnées. Et il écrit des élégies magnifiques, etc. Élégie de Phèdre, enfin, plutôt Hermione, etc. Et ce que va faire Clélie, c'est qu'elle va faire des harangues héroïques où c'est des femmes, Cléopâtre, Lucrèce, etc., des femmes qui ont dit non, qui refusent, qui expliquent, qui ne sont pas du tout dans la déploration et qui sont dans la politique. Et donc c'est politique, et c'est aussi Lucrèce, dans la continuité de Lucrèce, Clélie, le refus d'être violée. Mais ça, on le dit pas trop et on le voit.
Pourquoi on le dit pas trop?
Bah parce que je pense que déjà le viol c'est tabou, enfin c'est nouveau hein, qu'on parle de viol. Enfin moi je suis pas un dinosaure et on n'en parlait pas hein, à mon époque, encore moins dans les salles de classe, même quand il s'agissait de viol, etc. C'est il y a quelque chose de tabou dans le fait de déplier ça. Et puis ensuite, il faut vraiment lire les textes et comprendre. C'est-à-dire que même moi, par exemple, mes enfants, ils sont tout petits, on leur lit la mythologie grecque. À chaque fois, c'est Zeus qui est amoureux. Enfin, la façon dont on raconte dans
l'amour ou le consentement.
L'amour, il y a une façon quand même très romantique et édulcorée de parler des viols. Hein. Enfin, dans les anthologies, il y a plein d'anthologies qui se situent contre ça. On refait des anthologies, mais même, voyez, si vous regardez La Garde et Michard, quand vous ouvrez Scudéry, c'est vieille fille, etc. Enfin, la façon dont on présente cette œuvre, on va pas vous dire oui, c'est une femme qui a réussi à penser la conversation, le viol, le consentement. On va dire non, c'est une vieille fille qui s'est jamais mariée et qui écrit.
Comme on l'a entendu dans l'archive de 1951, voilà. qui a perdu en cote.
Enfin, vraiment, c'est pas très intéressant. Ces livres ne se lisent pas, alors que c'était des best-sellers. Qu'en fait, tous ces livres, enfin, toutes ces réflexions imprègnent vraiment la littérature du XVIIe.
Et j'aimerais qu'on entende, pour finir sur Clélie, histoire romaine, justement la voix de Plotine, une des héroïnes de Madeleine de Scudéry.
Les commencements d'amour n'étant pas pour l'ordinaire si sensibles que l'on puisse connaître dès le premier moment le mal dont on est attaqué, Lycaste et Marcius ne crurent pas devoir être fort amoureux de Plotine, et leurs amis et leurs amies s'en aperçurent plutôt qu'eux. Comme Plotine, à l'humeur libre et enjouée, ces deux amants étaient assez embarrassés à trouver l'occasion de lui faire entendre sérieusement qu'ils l'aimaient lorsqu'ils s'en aperçurent, car elle détournait toujours si adroitement ce qu'il lui disait qu'on eût dit que leur amour n'était qu'une simple galanterie où le cœur n'avait point de part. Mais ils connurent à la fin qu'ils l'aimaient éperdument. En effet, leur amour commença d'éclater par la jalousie, car ils ne pouvaient plus s'endurer l'un l'autre qu'avec peine. Ils ne songeaient qu'à Plotine et qu'à lui plaire. Ils ne voyaient qu'elle. Ils abandonnaient toutes leurs connaissances et n'avaient enfin que leur passion dans la tête. Comme Plotine a toujours eu aversion pour le mariage et qu'elle n'eût pas voulu faire une galanterie criminelle, il est certain qu'elle fit ce qu'elle put pour ôter toute force d'espérance à ses deux amants. Mais cette rigueur augmenta leur amour au lieu de la diminuer.
Alors Plotine, c'est une figure subversive, mais en fait, comme toutes les héroïnes de Madeleine de Scudéry, Jennifer Tamas, puisque elle plaide, la suite du texte parle aussi du célibat. C'est pas qu'elle refuse uniquement le mariage, c'est qu'elle en a fait une philosophie de vie. Et on pourrait citer d'autres héroïnes, hein, Pasité, Synésie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Plotine, Jennifer Tamas, pour finir?
Je trouve qu'elle est extraordinaire, Plotine, parce que c'est tout le contraire des préjugés qu'on a sur la vieille fille ou la fille qui refuse de se marier, justement. On voit très bien qu'elle refuse de se marier, mais elle a beaucoup de prétendants. Elle est tout à fait enjouée, elle adore discuter, elle adore la conversation. Le célibat n'est pas forcément une solitude. Voilà, c'est ce que va dire aussi Gabriel Suchon. Là, je suis en train de travailler en ce moment sur Gabriel Suchon parce qu'on va avoir un colloque sur le mariage la semaine prochaine. Et c'est aussi ce que dit Gabriel Suchon. C'est pas parce qu'on ne se marie pas qu'on adore être dans la solitude, qu'on n'aime pas parler, etc. Et donc, Plotine, en fait, elle va très très loin, parce que ensuite, vraiment, page 333, 334, on n'a pas le temps de lire, mais il y a vraiment, elle pousse un cri de liberté en disant finalement, le mariage, c'est une folie, parce que soit on aime quelqu'un et c'est vraiment formidable, mais alors quand même, on mise toute sa vie sur un sentiment qui est frivole et qui peut changer. Soit on l'aime pas et alors c'est une union forcée et c'est insupportable. Mais dans tous les cas, on perd. Et en plus, ce qu'elle dit, c'est que finalement, il y a plusieurs choses qui sont problématiques dans le mariage. Hein. C'est que... je vous lis juste
Allez-y.
Ça. Hein. Car enfin, disait-elle, je ne veux jamais m'exposer à trouver des amants indiscrets. Infidèle, capricieux, tiède, inégaux et fourbe, ni ne mettre au hasard d'avoir un mari, ni jaloux, ni avare, ni prodigue, ni bizarre, ni impérieux, ni chagrin, ni coquet, ça j'adore coquet au masculin, ni peu honnête homme, ni par conséquent à avoir des enfants mal faits, peu honnêtes, gens ingrats et méchants. Et j'aime sans comparaison mieux passer toute ma vie avec la liberté d'avoir des amis et des amis, donc masculin et féminin, des amis et des amis tels qu'il me plaira. Car je sens bien que si je me mariais, je serais si bonne femme que j'en serais misérable. Donc tout est là, hein. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas tellement choisir son mari. Ça, vous trouvez exactement, et on ne sait pas, même le plus beau des visages, à Corte, etc., nous réserve peut-être un tyran domestique. Hein. Vous trouvez ça aussi, acte 1, scène 1, chez Marivaux, dans Les Jeux de l'amour et du hasard. On ne sait pas sur qui on tombe, c'est un peu la loterie. Et puis en plus, on risque d'être trompé, on risque d'être malheureux, et alors le pire, c'est qu'on va avoir des enfants. Et alors là, on ouvre un autre chapitre. Les enfants, ça me rend bonne femme. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas de condition telle encore pour se réaliser dans ce désir de l'esprit avec les enfants tels que c'est présenté à cette époque. C'est un refus d'être malheureux.
Cette ère de l'opéra de Jean-Baptiste Lully, Armide, venez, venez, haine implacable. Pour introduire cette séquence de fin d'émission, Jennifer Tamas, après avoir évoqué votre autrice de cœur, Madeleine de Scudéry, place à un auteur que vous n'aimez pas, que vous ne comprenez pas, ou au contraire que vous comprenez très bien, mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Bah c'est toujours un peu tabou quand on est prof de lettres de dire qu'on n'aime pas un auteur.
Non, mais je pense que ça dédramatise aussi.
Oui, bon... En fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec Céline, voilà. Parce que, donc, j'ai eu Céline, Voyage au bout de la nuit, au programme de l'agrégation, c'était en comparé avec un autre texte, c'était Günter Grass, Le tambour, et Ralph Ellison, Homme invisible pour qui chantes-tu? Et en fait, alors, j'ai adoré Ralph Ellison, ça m'a parlé de plein de choses, mais alors, Le tambour et Voyage au bout de la nuit, enfin, c'était vraiment le combo, enfin, ça m'a rendu malade, mais physiquement, quoi. C'est-à-dire que, donc, Voyage au bout de la nuit, je l'ai lu 5 fois, tout le monde m'a dit, mais c'est extraordinaire, la musique célinienne.
Même en connaissant un texte 5 fois, on n'arrive pas à l'aimer.
En fait, ça me faisait physiquement me vomir. Ça me rendait vraiment malade. C'est-à-dire qu'il y a une telle misogynie, il y a une scène à la fin qui est une scène d'accouchement. Lui, il est médecin en banlieue. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai grandi en banlieue. Je ne sais pas, il y a vraiment une telle condescendance à l'égard de la misère sociale. Et puis la femme engrossée, bah, c'est passé par un côté, donc ça doit sortir du même côté. Elle faisait pas tellement de simagrées quand, voilà, au moment de l'accouplement. Et ben bah, maintenant, elle hurle. Et, c'est vraiment une description de l'accouchement qui m'a vraiment révoltée. Plus, bon alors, c'est vrai qu'il y a des pages sur la guerre dans Voyage au bout de la nuit qui sont très fortes. Mais moi, je comprends pas cette fascination pour la musique célinienne. Mais bon, alors, je vais me faire haïr par plein de céliniens, plein de gens qui disent « mais t'as rien compris ». Et c'est pas que j'ai rien compris, c'est que je vois pourquoi ça peut faire mouche. Il y a quelques pages comme ça, l'arrivée aux États-Unis que je trouve génial, là, quand il décrit le dieu de l'art dans la caverne fécale, etc. Mais vraiment, je trouve que... Et puis on va me dire, oui, la misogynie, quand il parle de la prostituée Molly, c'est quand même très beau, etc. Donc, il y a des petites pépites comme ça dans le livre. Mais en fait, je sais pas, la scène de caoutchouc, quand il parle...
Vous le connaissez encore très bien, hein. Bah, je l'ai hanté.
Ouais, je sais pas, je l'ai lu 5 fois, je préparais la grecque. Mais alors ça, plus Gunther Grass, il y a une scène de viol dans Gunther Grass, qui est vraiment... Mais je voulais en parler, voilà, justement. J'étais étudiante, je préparais la grecque, j'allais être prof. Mais on peut en parler de cette scène qui est abjecte. Mais non, mais t'as rien compris, en fait, Gunther Grass. C'est une scène de dénonciation, etc. Mais je fais, mais moi, ça me rend malade. Pourquoi? Donc, on parlait tout à l'heure des tabous du viol. Et voilà, j'ai passé la grecque.
Ce qui est paradoxal, c'est que dans la langue du XVIIe, on pourrait se dire que c'est moins dit encore, que c'est encore quand Lucrèce se fait violer, elle ne le dit pas comme ça, elle le fait comprendre.
Elle parle d'honneur, elle parle de gloire.
Voilà. Et pourtant, ouais. Vous trouvez que c'est plus puissant, c'est plus puissamment dit que chez Gunther Grass ou Céline?
Alors, bah, Gunther Grass, c'est juste de la violence à l'état pur et de la complaisance dans la violence, à mon avis. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Et la violence dans l'accouchement. Mais c'est toujours le problème en littérature. C'est qu'on vous dit, bah, vous lisez un truc horrible, très graphique, et vous dites, mais enfin, c'est pas ce que pense l'auteur, c'est pas de la complaisance, c'est de la dénonciation. Comment on peut, voilà, épingler stylistiquement ce qui relève d'une description ou ce qui relève d'une dénonciation, ou ce qui relève de la complaisance? Voilà, c'est la question du point de vue, c'est la question des mots qu'on choisit. Et parfois, c'est très subtil, en fait. Est-ce qu'on a les outils? Comment on déploie la boîte à outils pour dire si c'était de la complaisance ou pas? Et moi, à l'époque, on m'avait dit, mais Gunther Grass, il est contre les nazis. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, moi, je vois la complaisance. Et ensuite, on a vu après qu'il a été condamné parce qu'en fait, il était... du côté des nazis. Enfin, mais sur le coup, moi, quand j'étais au programme d'Agreg, on m'a dit que j'avais rien compris.
Merci beaucoup, Jennifer Tamas. De vous, on peut lire Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin. Peut-on encore être galant? Tous deux parus aux éditions du Seuil. Et enfin, lisez Clélie, histoire romaine. On a parlé de cette magnifique version abrégée de Delphine Denis qui est disponible en folio. Lisez-le pour la carte de tendre, la tendresse, la galanterie, la conversation entre les hommes et les femmes, des nouveaux modèles de masculinité. Merci beaucoup à vous, Jennifer Tamas, de nous en avoir parlé ce matin.
Merci à vous.
Et un grand merci. Pardon, j'allais reprendre mon souffle. Un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Noé Chaban à la prise de son. Les émissions Le Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site de France Culture et sur la toute nouvelle application de Radio France. La semaine prochaine, c'est Géraldine Mühlmann et son équipe que vous retrouverez au micro pour une nouvelle série d'Avec Philosophie sur les procès de philosophes.